Bienvenue dans le podcast Ma vie de freelance. Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Justine Jourdain, j'ai 26 ans et je suis à mon compte depuis 3 ans en tant que community manager et rédactrice web. Dans ce podcast, tu trouveras mes conseils, mes témoignages, mes expériences, mes difficultés dans ma vie d'entrepreneur. J'espère que ce podcast pourra t'aider à te rassurer, à trouver des informations, à te sentir moins seule, qui pourra t'accompagner dans ta vie d'entrepreneur. Je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je souhaitais te parler de clients difficiles. Parce que quand on est à son compte, on finit toujours par travailler avec un client difficile et ça peut alors devenir un enfer de travailler pour cette personne. Évidemment, ça n'arrive pas toujours à tout le monde, ça n'arrive pas non plus toutes les semaines, heureusement, ni tous les mois. Mais dans ma petite expérience de freelance, cela m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et par mon manque d'expérience et mon petit caractère un peu parfois compliqué, j'ai pas forcément réagi de la bonne façon en optant pour la fuite et être sur la défensive, ce qui n'est pas forcément ce qui est préconisé. Et ce qui n'est pas très productif non plus. Avec du recul, j'ai gagné en maturité, j'ai compris de mes erreurs, même si évidemment dans ce genre de situation, il n'y a pas qu'une seule personne qui a tort. Mais je sais que je n'aurais pas dû réagir de cette façon. Et maintenant, avec du recul, j'ai compris ce que j'aurais dû faire à la place. C'est toujours comme ça, on est sur une expérience où on réagit à chaud et puis quelques secondes plus tard on regrette et on se dit je n'aurais jamais dû réagir comme ça, c'était pas mature, c'était pas la meilleure façon de régler le souci, etc. Aujourd'hui j'ai envie de te partager mes conseils pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi j'ai pu faire. Tout d'abord j'ai envie de te donner des conseils pour vraiment comprendre comment il faut réagir face à un client pénible quand ça se passe mal. Mais aussi dans un second temps, comment tu peux faire pour éviter ce genre de situation, parce qu'il y a toujours des signes qui annoncent ce genre de problème imminent. Donc le premier conseil, c'est d'être à l'écoute de son client. Donc peut-être que tu l'es déjà, mais parfois, enfin de toute façon, c'est je pense une vérité, c'est que dans une relation, qu'elle soit professionnelle ou non, quand il y a un désaccord, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'on n'a pas forcément été à l'écoute de la personne et cette personne n'a pas forcément été à notre écoute. On a vraiment été dans une optique de penser un peu qu'à soi, à ce que nous on voulait, mais on a oublié qu'on était face à un humain qui avait aussi des besoins et des envies, des objectifs. Et si on oublie ça, évidemment, à un moment donné, il va y avoir un malentendu. Donc déjà, les humains sont tous différents. On n'a pas forcément le même vécu, les mêmes expériences, les mêmes personnalités. Et parfois, il arrive qu'un client a une façon de fonctionner qui n'est pas la nôtre et qui va même à l'encontre de certains de nos principes. Et alors, on peut alors être complètement dérouté face à une personne qui fonctionne complètement différemment de nous. Et le mieux à faire, en tout premier lieu, c'est que ce soit avec un client difficile ou avec un client avec qui les échanges sont fluides et cordiaux, c'est d'être à l'écoute de cette personne, de se mettre à sa place. Qu'est-ce qu'il cherche? Que cherche-t-il? A-t-il bien compris ce qu'on propose? Avez-vous bien expliqué les tenants et aboutissants de ce que vous lui proposez comme service? On est d'accord que dans toute relation sociale, la communication est primordiale. Sauf que, parfois, avec un manque d'expérience ou avec un manque de self-control, la communication, on ne la gère pas bien. Et c'est ça qui fait qu'on a des conflits avec des personnes, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, etc. Quand il y a un problème de communication, on peut être sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des disputes ou carrément que les gens vont couper les ponts avec vous, etc. Donc il faut essayer de se mettre à la place de son interlocuteur, de comprendre ce qu'il recherche et de le comprendre. Qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il attend, pourquoi il fonctionne comme ça, etc. C'est vraiment de la psychologie, mais c'est un élément qui est très important dans le domaine de la vente. Si on essaye de se mettre de son point de vue dès le début, ça permet de faire preuve d'empathie, d'avoir de la compassion. Le fait de se mettre à la place de quelqu'un, déjà, ça fait beaucoup de choses puisqu'on se met dans son rôle, dans sa peau, et du coup, on comprend un petit peu mieux cette personne. Ça va nous permettre de comprendre la psychologie de notre client et d'éviter les disputes, etc. Même s'il est trop tard, quand tu lis cet article et que la relation avec ton client a tourné au vinaigre ou qu'elle est partie un peu en cacahuète, comme ça a pu déjà m'arriver, c'est pas très grave, c'est le jeu, ça arrive. Et là, tu apprendras de tes erreurs, comme moi j'ai pu faire exactement. J'ai pu également le faire par rapport à mes expériences passées. Deuxième point, c'est pas une histoire d'ego, mais il ne faut pas non plus oublier que tu es entrepreneur. Parce que parfois, quand on débute à son compte, on peut des fois avoir un petit souci de confiance en soi. On peut penser qu'on n'a pas forcément les bonnes capacités, que c'est chez nous que ça cloche, que peut-être que notre travail est nul. Enfin, voilà, quand on fait face à un client compliqué qui est dans la critique ou qui est très perfectionniste, donc qui va pointer la moindre chose qui ne lui convient pas, etc., on peut vite se remettre en question. Ça a été mon cas. Ça l'est toujours des fois, hein. C'est une histoire d'ego et de problème d'estime de soi. Mais on peut remettre tout en question, nos capacités, etc. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois que face à une critique, c'est peut-être de la susceptibilité, peut-être, c'est aussi un gros manque de confiance en soi. Ça m'a vraiment empêché de continuer mon travail. Et je me sentais vraiment, vraiment déprimée. J'avais l'impression d'être nulle, d'être incapable, etc. Ça, c'est vraiment aller très loin. Donc, ça varie évidemment selon ton caractère, selon ta confiance en toi. Mais ça peut vraiment aller loin. Donc, c'est pour ça que je te dis ne pas oublier que tu es entrepreneur. Parce que des fois, on a des clients. Peut-être qu'on a aussi nos torts, mais il y a aussi des clients qui sont quand même très bizarres ou compliqués. Je parle pas forcément de mes expériences à moi, mais j'ai déjà vu des témoignages d'entrepreneurs qui parlaient de certains clients, ils montraient même des conversations, etc. Et ça laissait vraiment à désirer. Donc, il faut quand même pas oublier qu'un client est roi, évidemment, il paye quelque chose. On doit faire ce travail de la façon la plus professionnelle. Mais le client est roi ne veut pas dire le client doit te parler comme une merde. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le pense. Qu'il te parle d'une façon très condescendante, ça n'a pas lieu d'être en fait. Que ce soit une relation entre un patron et un salarié, un entrepreneur avec un client, tu dois être respecté. Si tu n'es pas respecté, à un moment donné, tu vas péter un câble. C'est obligé. Parce que si tu as un petit peu d'amour propre, tu ne peux pas te laisser te faire marcher sur les pieds comme ça indéfiniment. À un moment donné, il y a évidemment un moment donné où tu vas exploser. Soit tu vas prendre la fuite comme moi j'ai pu le faire parce que je n'ai pas réussi à réagir d'une autre façon plus contrôlée quelque part. Mais bon, on est humain, on a le droit d'être respecté. Et si quelqu'un commence à vraiment vous manquer de respect, pour moi, c'est clair que d'abord, on pacifie la communication, on revient au calme. Et ensuite, on essaye de stopper cette relation avec son client. Quand tu as ton compte, c'est parce que tu veux de la liberté, c'est que tu veux aimer ce que tu fais. Si tu commences à avoir mal au ventre le matin avant de te lever et de commencer ta journée en tant que freelance, c'est qu'il y a un problème. C'est que cette personne est nocive pour toi et c'est comme dans la vie personnelle. C'est pas forcément évident de dire stop, je ne veux plus travailler avec vous, mais il faut le faire parce que la personne qui est le plus importante, c'est toi. Et si tu veux continuer à avoir ta passion et à travailler, à gagner de l'argent, mais d'une façon positive et donner le meilleur de toi-même à des personnes qui te respectent, il faut que tu arrives à mettre des limites, que tu arrives déjà par respect de toi-même, tu dois mettre des limites. C'est obligé. Bien sûr, on n'est pas obligé de foncer tête baissée et de rentrer dans la dispute, etc. On peut dire juste honnêtement les choses. Dans mon travail, je fonctionne comme cela, etc. Est-ce que cela vous convient ? Ou alors, qu'attendez-vous de moi pour mettre les choses au clair ? Et si quelqu'un dépasse les bornes, de lui dire clairement, je n'accepte pas que l'on me parle comme ça. Voilà. Alors, ça va pas plaire à cette personne, c'est sûr. Peut-être que vous allez être angoissé de le dire. Mais en fait, c'est montrer à son client qu'on a des limites et qu'on ne peut pas se faire parler ou se faire parler comme ça ou se faire marcher sur les pieds indéfiniment. Cette personne n'est pas votre patron. Alors oui, c'est votre client, mais des clients, vous en aurez d'autres. Elle ne doit pas penser que vous êtes dépendante de lui financièrement, etc. Ça a été mon problème. Je m'accrochais à des personnes qui n'étaient pas du tout agréables, avec qui je ne prenais pas plaisir de travailler, parce que j'avais peur de ne pas avoir d'argent. Mais honnêtement, il ne faut plus avoir cet état d'esprit d'avoir peur de manquer d'argent. Il faut juste se respecter et dire stop. Quand il est encore temps. Si par exemple, mettez-vous dans une autre posture. Si vous êtes parent, Si votre enfant il commence à vous insulter ou vous taper, vous allez dire stop, on est d'accord. Vous n'allez pas avoir peur que votre enfant ne vous aime plus, c'est comme ça. Mais vous devez mettre vos limites, sinon après vous allez vous faire bouffer, on est d'accord. Vous allez montrer que vous êtes faillible et que cette personne peut abuser de vous. Donc il ne faut pas faire ça. Évidemment, il faut mettre son ego de côté. C'est pas une histoire de susceptibilité où on dit, voilà, moi je veux pas qu'on parle comme ça, rien. C'est juste du respect envers soi-même. Et cette personne, votre client, du coup, va comprendre que là, il a atteint des limites et il va peut-être se remettre en question. Il y a des gens qui se remettent jamais en question, c'est vrai. Et si c'est le cas, et bien de toute façon, c'est pas très grave. Vous aurez perdu peut-être un client compliqué, mais si c'est pour en avoir 10, pour avoir 10 clients bien plus sympathiques, ce sera beaucoup plus agréable pour vous et vous continuerez à gagner de l'argent, ne vous inquiétez pas.
Moi, j'ai d'autres exemples qui me viennent en tête par rapport au management, en fait. C'est une histoire de communication, etc. Même dans le système salarial, bon bref, vous avez compris, il y a des managers qui, pour moi, n'ont rien compris à la psychologie et qui parlent mal à leurs salariés, qui leur donnent des ordres, qui se prennent vraiment pour des rois, enfin qui se prennent vraiment pour les chefs, et qui essayent de soumettre en fait leurs employés, etc. Et en fait, quel est le résultat? Le résultat, c'est qu'il y a des manifestations, qu'il y a des employés qui n'en peuvent plus, qui ne veulent pas travailler avec plaisir en fait. On n'est plus du tout dans le système de la peur. Si vous êtes un manager et que votre objectif, c'est de faire peur à vos salariés, de faire votre chef et d'imposer telle chose, prendre en considération la vie, la personnalité des personnes qui travaillent pour vous, et vous n'aurez aucun résultat parce que ces personnes vont venir au travail en traînant des pieds, avec la boule à la gorge, et ne vont pas faire un travail magnifique en fait. Si vous les encouragez, si vous prenez en compte que telle personne a un enfant, que telle personne est plus sensible par exemple, et que vous exploitez en fait les qualités qu'ont ces personnes, déjà c'est beaucoup plus humain, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus productif, parce qu'en fait ces personnes-là vont venir avec le sourire au travail, elles vont se sentir motivées, elles vont savoir qu'elles vont passer une bonne journée, qu'elles vont donner le meilleur d'elles-mêmes. Voilà, c'est vraiment une histoire de logique, sauf qu'en fait quand on voit toutes les manifestations qu'il peut y avoir, les gilets jaunes, etc., où, voilà, les gens n'ont pas compris en fait que c'est comme ça que ça fonctionnait. Si tu veux qu'un salarié ou qu'un entrepreneur, si tu es un client, travaille bien pour toi, alors tu dois l'encourager. Si tu l'as choisi lui, c'est que tu crois en lui. Donc il faut que tu continues à lui montrer qu'il a des qualités, parce qu'il y a souvent des patrons qui sont bien gentils pendant les entretiens d'embauche, etc., qui jouent un peu de la flûte et qui après, une fois embauchés, ils parlent comme des chiens, ou alors ils considèrent même pas les employés, ils vont même pas leur dire bonjour, ils vont même pas dire merci, sauf qu'en fait il y a plein de gens dont je fais partie, ils ont pas forcément envie d'avoir un salaire mirobolant, ils veulent avoir de la reconnaissance, ils veulent qu'on leur dise merci, ils veulent qu'on remercie, qu'on reconnaisse leur travail. Parce que si un salarié se sent inutile, qu'il a l'impression qu'il fait tout le temps des choses nulles, évidemment il va pas travailler correctement. Donc c'est une histoire de logique. Mais je pense que c'était clair, c'était important de le rappeler, parce que vu le nombre d'arrêts maladie ou même d'entrepreneurs qui jettent l'éponge parce qu'à force d'être face à des gens qui attendent d'eux des choses incroyables pour pas cher, n'est-ce pas ? Parce que ça, c'est un vrai problème, on en parle juste après. Voilà, il faut vraiment remettre les choses dans le contexte et essayer d'avoir un esprit logique par rapport aux relations sociales entre les gens. Si t'es méchant, ou si tu ne respectes pas les gens, n'attends pas que toi on te respecte et qu'on donne le meilleur de soi pour toi. Bon, voilà, j'espère que c'était assez clair. Je pense que vous aurez très bien compris de quoi je veux parler, parce que ça fait partie de la vie de tout le monde, j'ai l'impression. On a tous vécu ça, être mal considéré pour ce qu'on fait. Et du coup, la réaction, c'est qu'on n'a pas envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple personnel. Par exemple, quand j'étais en stage, j'ai fait un stage de un mois à L'Oréal à Londres. Bon, c'est aussi la mentalité anglo-saxonne, etc. Mais j'étais stagiaire, on est d'accord, juste pour un mois, je me suis sentie comme une reine. On me respectait, on me disait bonjour, on me traitait comme une employée lambda. Bon, on me faisait des cadeaux, c'est encore plus cool. Mais dans le sens où, en fait, on me bichonnait, quoi. Et j'ai né une super expérience. J'ai eu d'autres expériences, par contre,
Surtout notamment en grande distribution où on te parle comme une merde. Et on attend de toi des choses incroyables alors qu'en fait t'es payé un misérable SMIC par exemple. T'as pas envie. T'as pas envie en fait de donner le meilleur de toi-même si tu n'as pas de récompense. Mais ça, malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas compris que ça fonctionnait comme ça. Et moi-même, dans mon expérience d'entrepreneur, si j'ai un client ou une cliente qui me dit merci pour mon travail régulièrement, qui me fait confiance, qui me donne des projets, qui me laisse des évaluations positives, par exemple sur les plateformes où je suis, ben j'ai envie de travailler pour eux. Même si le tarif n'est pas forcément incroyable, ça n'en représente pas beaucoup dans le mois, j'ai envie de travailler pour ces personnes et de les aider à se développer eux. C'est normal, c'est logique en fait. Donc voilà, c'était pour dire qu'il ne fallait pas se laisser marcher non plus sur les pieds. Il fallait bien sûr être respectueux, rester courtois, parce que 10 avis négatifs est égal à un avis positif, dans le sens où si cette personne ensuite vous met un commentaire ou si elle parle de vous d'une façon négative, c'est pas forcément bon pour votre business. Donc il faut rester évidemment courtois, de toute façon dans toutes les relations humaines, et mettre les choses au clair. Et si jamais le malentendu persiste, alors il faut couper le pont. Il faut dire stop, je ne souhaite plus travailler avec vous. J'ai fait de mon mieux, je vois que je ne réponds pas à vos attentes, j'en suis désolée, vraiment, j'aurais aimé vous apporter tel résultat par exemple, et voilà, c'est clair, c'est fini, c'est dit de façon respectueuse, et cette personne soit elle se remet en question, elle dit bon excusez-moi et là on repart à zéro, ou alors bah, c'est fini, on ira voir ailleurs et c'est tout. Mes conseils pour éviter les clients compliqués, parce que par mes petites expériences compliquées, je me suis rendu compte qu'il y avait eu des signes que je n'avais pas écoutés, soit parce que j'avais besoin de clients, que j'avais besoin d'argent, etc. Comme je vous l'ai dit, je suis honnête avec vous sur ce sujet. Parfois, on a un peu la pression, hein, et on a besoin de manger, de payer nos factures. Donc, parfois, ça m'arrivait d'accepter des trucs que j'avais senti, en fait, qu'il fallait pas. Parce que ce soit à l'écrit ou au téléphone, parce que souvent, moi, je communique surtout par écrit, par mail, etc. Ou sur des chats de plateforme, etc. Donc, c'est un peu moins facile de voir l'embrouille qui arrive. Mais au téléphone, c'est beaucoup plus facile. On entend le ton de la voix, etc. Mais même par écrit, on sent si ça va le faire ou pas. Déjà, quand une personne, un client, cherche du pas cher, etc., qui va commencer à négocier vos prix, etc., alors qu'ils sont déjà... De toute façon, vos prix, c'est vos prix, vous n'avez pas à les négocier, on n'est pas au marché, n'est-ce pas? Déjà, fuyez. Déjà, ça veut dire... Parce que j'ai remarqué que les clients qui voulaient du pas cher étaient beaucoup plus pénibles, en fait, parce qu'ils n'étaient pas... Ils voulaient du pas cher tout de suite, mais ils n'étaient pas dans la recherche de qualité sur le long terme, etc. Et ça, c'est pas intéressant pour vous. Vous devez travailler pour des prix raisonnables, évidemment. Bien sûr, ça existe, ça arrive de se tromper, comme moi j'ai pu le faire. Mais il faut se respecter. C'est toujours une histoire de respect et de savoir vous, ce que vous attendez, ce que vous avez besoin pour vivre. Voilà, pour garder quand même cet élément dans la tête. Et voilà, donc déjà si la conversation commence mal, déjà que cette personne vous demande de négocier vos prix, ou commence à être un peu pointilleux sur des détails, ou qui commence à vous donner trop de limites. Par exemple, moi je suis community manager experte en stratégie sur Pinterest, donc j'ai déjà ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire pour chacun de mes clients. Ensuite, je m'adapte évidemment selon les résultats, etc. Mais j'ai ma façon de travailler qui donne des résultats. C'est pas pour rien que je propose mes services, c'est que je sais comment faire pour amener du trafic à des blogs ou à des sites internet. Bien sûr, je suis dans la flexibilité. Je vais respecter, bien sûr, la charte graphique des personnes avec qui je travaille. S'il y a des choses qu'elles ne veulent pas afficher sur Pinterest, je vais respecter ça, bien sûr. Mais j'ai des clients qui vont me dire « Oui, mais moi, je ne veux pas épingler tant, je veux faire ci. » Ils sont en train de remanier toute la stratégie. Alors moi, je dis rien parce que je veux rester dans un échange cordial et qu'il ne faut pas que je monte dans les tours. Mais je comprends pas parce que je me dis, si tu engages quelqu'un qui est expert dans un domaine parce que tu as besoin de résultats de sa part, mais pourquoi tu essayes d'imposer comme si c'était toi? Enfin, en fait, à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais faites-le alors, faites-le, parce que c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. C'est comme si moi, j'engage une rédactrice web, par exemple, ou un rédacteur web, évidemment, et que je donne 36 000 consignes sur le SEO, alors que cette personne est experte là-dedans. Elle sera beaucoup mieux qualifiée pour faire du travail, du bon travail, que moi. Et donc, je vais lui donner mes consignes en termes de mots, etc., les mots-clés, etc., mais c'est tout. Après, je vais laisser l'expert travailler, en fait. C'est comme si vous allez faire réparer votre ordinateur en donnant des consignes, je n'ai pas les termes techniques, mais vous voyez, des consignes complètement techniques à quelqu'un qui est professionnel. Alors voilà, j'en aurai plein des exemples comme ça. Mais déjà, quand ça commence comme ça, une relation avec un client, ça s'embrouille. Alors évidemment, il ne faut pas non plus dire stop dès le début. On peut continuer la conversation, mais ne faites pas un devis direct. Commencez un peu à apprendre à connaître cette personne. Des fois, on a une première impression qui est mauvaise et puis finalement, ça se passe bien. Mais parfois, il faut se faire confiance. En tout cas, moi, il y a plein de fois où je ne me suis pas fait confiance alors que je l'avais senti et je l'ai bien regretté après. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut également que je vous dise quelque chose d'important, même si je pense que vous en avez conscience, mais dans la réalité, on ne respecte pas toujours ce point-là. C'est de ne pas commencer le travail avant d'avoir fait un devis signé. Ça m'arrive plein de fois. Parce que cette personne m'inspirait confiance. Alors des fois, on a aussi ce cas-là où on fait confiance à cette personne. Elle est très sympa, tout ça, vraiment gentille. On sent qu'il y a le feeling qui me passe. Et puis au final, donc du coup, vous dites, bon allez, je vais m'avancer. Ça m'est arrivé plein de fois de perdre même une journée, je m'en rappelle. Donc d'avancer le travail, sans devis, sans facture, ni rien. Et puis finalement, cette personne me l'a fait à l'envers. Elle dit finalement, je ne vais pas vous prendre. Voilà, donc ça c'est ma faute aussi, puisque c'est moi qui aurait dû attendre, mais juste pour vous, voilà, je voulais vous partager cette petite expérience qui m'a eu plein de fois et qui m'a fait perdre beaucoup de temps et qui m'a rapporté aucun argent du coup. Bon, il faut aussi remettre les choses dans le contexte, dans le sens où un client qui est difficile, c'est aussi une opportunité pour vous qui n'est pas très agréable à vivre, mais comme chaque expérience négative entre guillemets ou entre chaque difficulté que l'on connaît, que l'on vit dans notre vie professionnel ou personnel, c'est un apprentissage et ça va vous permettre de mieux vous connaître. Parce que quand on commence à son compte, on ne sait pas forcément par où commencer, etc. C'est pas facile de fixer ses prix, de savoir quel type de client on aime, etc. Évidemment, parce qu'on n'a pas forcément d'expérience. Mais à force, en ayant des expériences positives et négatives, ça nous permet de comprendre ce que nous, on ne veut pas, en fait, et quel type de client on ne veut pas. Et après, on finit par les voir de loin avec une étiquette collée sur le front, ne pas prendre. Et je pense que c'est intéressant d'avoir des expériences comme ça. Bien sûr, c'est très désagréable sur le moment. Il y en a que j'ai très mal vécu. Mais avec du recul, heureusement que je les ai vécues. Parce que du coup, bon, je ne sais pas si je l'avais dit sur le podcast, mais j'ai quand même fait une pause de 6 mois parce que justement, ça s'était mal passé avec un client. Et après, ben, je m'étais vraiment remis en question en me disant que j'étais nulle, que c'était moi la fautive, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment le comportement de la personne qui n'a pas du tout confiance en elle, etc. Du coup, j'ai pris une pause parce que en fait, je n'en pouvais plus, j'avais fait quand même un burn-out et je ne pouvais même plus allumer mon ordinateur pendant 6 mois, ce qui était vraiment très bizarre de ma part, parce que vraiment, je savais que j'avais franchi une limite et ça m'avait vraiment fait sentir mal, quoi. Et du coup, je m'étais carrément résolue à ne plus continuer à être à mon compte. J'avais clôturé mon compte à l'URSSAF, etc. Donc, je n'étais plus du tout auto-entrepreneur. Et ça a duré quand même 6 mois, cette pause. Et puis, j'ai repris après. Et là, j'ai repris, mais je sais où sont mes limites. Je sais avec qui je veux travailler. Je ne mets plus la pression sur l'argent, etc. Parce que ce n'est pas forcément le plus important dès le début. Évidemment, tant que j'ai le minimum qu'il me faut, tant que j'ai le montant en fait, qu'il me faut pour payer mes factures et qu'on ne soit pas non plus à manger des pâtes tous les jours, j'attends, je suis patiente et je respecte ce choix-là. Et au moins, je ne suis pas découragée ou angoissée de travailler, ce qui était le cas. À cette période-là, où dès que j'ouvrais mon téléphone et que je voyais des mails, j'étais en stress. J'étais vraiment stressée de lire la prochaine critique que j'allais recevoir. En fait, c'était vraiment ça. Et évidemment, mon cerveau n'a pas accepté ça pendant très longtemps. Et du coup, il m'a fait un petit court-circuit dans ma tête et j'ai dû vraiment m'arrêter pendant un petit moment. Donc, parfois, c'est des expériences difficiles, mais qui nous permettent en fait de mieux nous connaître, de comprendre nos limites, de savoir ce que l'on veut vraiment, quelles sont nos priorités, quelles sont vraiment les choses les plus importantes, en fait, en étant à son compte. Ça a dû peut-être vous arriver aussi, si ça fait un petit moment que vous êtes à votre compte, ou si c'est même le début, mais que vous faites du pas cher, et du coup, vous y attirez à vous des gens un peu pointilleux, qui veulent du pas cher, mais qui en même temps veulent des choses excellentes, etc. Donc voilà, c'était juste un petit mot pour vous donner du courage, essayer de relativiser la situation en vous disant que vous allez apprendre quelque chose de ça, et que ça va vous permettre de faire un peu plus le point sur ce que vous voulez dans votre vie professionnelle. Un dernier point que je voulais aborder par rapport aux échanges difficiles qu'on peut avoir avec des clients, que je n'ai pas du tout résolu. Mon conseil, si j'avais résolu le problème, serait qu'il ne faut pas prendre personnellement les critiques. Mais honnêtement, je ne suis pas capable encore, par exemple, de faire ça. Je trouve que quand tu es à ton compte, du coup, tu es ton propre patron. Et ton travail, en fait, ça ne te représente pas, mais ça fait quand même partie de toi. Et moi, j'ai toujours tendance à, si on critique mon travail, ça me blesse, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on parle de moi. C'est mes tripes, en fait, qui sont dedans. Donc évidemment, on va vous dire comme conseil qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement. Sauf que dans la réalité, c'est pas facile, parce qu'il y a vraiment quand on est salarié, on va dire que si quelqu'un critique la boîte dans laquelle tu travailles, bon, à part si t'es vraiment attaché à cette boîte, etc., que c'est toute ta vie, mais ça va pas trop te faire mal, ça va pas remettre en question ton travail. Alors que si t'es à ton compte, oui, en fait, ça va vraiment remettre en question ce que toi tu as fait. C'est très personnel, en fait. Donc voilà, mon conseil que je n'applique pas, ça serait de ne pas prendre les choses personnellement, mais je trouve ça vraiment difficile. Voilà pour ce podcast, j'espère qu'il n'a pas été trop long, j'ai beaucoup parlé, etc. J'espère que ça aura été intéressant, que ça t'aura peut-être rassuré et que ça t'aura donné des pistes pour éviter ces clients compliqués qui sont un peu trop pointilleux et qui sont pas forcément très respectueux. Voilà, n'oublie pas qu'il faut que tu te respectes, que tu ne fais pas, on n'a qu'une vie, donc si c'est pour se rendre malade au travail, même quand tu es à ton compte, là c'est qu'il y a vraiment un problème. Quand on se met à son compte, c'est pour être libre. Évidemment, il y a toujours des personnes qui sont compliquées, etc., mais il ne faut pas non plus se prendre la tête indéfiniment, il faut trouver une solution, le faire de façon calme, posée, c'est-à-dire ne pas réagir à chaud, etc., attendre de se calmer avant de répondre à un message. Ça, c'est bien ce que j'ai compris ces dernières années. Ça m'est arrivé plein de fois de réagir un peu trop à chaud. Ce n'était pas forcément la bonne solution. Ce n'était vraiment pas la bonne solution. Donc j'espère que mon expérience et mes apprentissages te permettront de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Et je te retrouve dans un nouvel épisode jeudi prochain. À bientôt. Et si tu as aimé ce podcast, tu peux me laisser une note sur ton appli de podcast préféré. Cela va beaucoup m'aider à référencer l'épisode. Merci beaucoup. Prends soin de toi.